France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Philippe Cognier. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Gaumont nous parlera du film d'animation « Saules aveugles, femmes endormies » de Pierre Foldès. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Quelles sont les ambitions de la plateforme Disney+, Pauline Dauvin, vice-présidente de production et acquisition. Pour cette plateforme, nous en dira plus sur les politiques éditoriales à venir. 19h50, Affaires à suivre, en compagnie de l'autrice, compositrice et interprète Maud Lubeck. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi et Valentin Bobinet à la prise de son. Bonsoir Philippe Cognier.
Bonsoir.
On peut vous voir en ce moment et jusqu'au 16 juillet au musée Bourdelle à Paris, l'exposition Philippe Cognier, la peinture d'après, en ce moment également et jusqu'au 4 septembre. Proposer un contrepoint contemporain à l'Orangerie à Paris. Nous allons bien sûr parler de ces actualités, mais qui me donne aussi l'occasion de vous recevoir pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre parcours, vos méthodes de travail. Leur dire d'abord que vous êtes né à Nantes un 22 mars. Alors bon anniversaire.
Merci. Cognier. C'est vrai.
Ça que nous fait déjà un point commun. bon anniversaire à nous. Né à Nantes, donc, mais de 5 à 17 ans, vous vivez au Bénin. Puis en Namibie, votre père ayant poursuivi dans ses métiers, dans ses pays, son métier de professeur. Non, pas
en
Namibie.
Exactement, pas en Namibie. J'ai voyagé en Namibie. Ah. Je ne suis resté qu'au Bénin.
Ah, vous avez vécu tout ce temps-là au Bénin. Alors,
oui.
5-17 ans, c'est quand même
long moment. Un long moment.
Et c'est là que vous commencez à dessiner, à peindre, et plutôt les paysages français, j'ai lu, des aquarelles. C'est bien cela?
Étrangement, oui. C'était cette nostalgie de la France quand j'étais en Afrique. Oui, oui, je peignais des petits paysages, bon, comme le font les enfants ou les adolescents. Enfin,
ouais. Ça a commencé petit.
Oui, ça a commencé petit. Ça a commencé vers 6-7 ans. Et je peignais des petits paysages comme ça, mais plutôt des sapins, plutôt des bouleaux, plutôt des arbres qu'on ne trouve pas en Afrique.
Mais il y avait une sensibilité quand même pour les arts plastiques dans votre famille.
Oui, mon père, qui avait été instituteur puis ensuite enseignant, était très sensible à ce que moi, mon frère, soyons intéressés par... il voyait nos qualités de peintre, de graphiste, de plasticien, si on peut parler comme cela. Et comme il le voyait, il a très vite compris qu'il fallait que ces dons puissent être développés.
Ah, encore.
Et donc, il nous a mis assez vite... Il nous donnait des cours avec un professeur béninois qui n'avait qu'un seul bras. Il avait eu un accident. Et j'ai appris beaucoup à dessiner avec lui aussi.
Alors, cet apprentissage vous réussit, si je puis dire, Philippe Cognier, parce que quand vous rentrez en France en 1974, d'abord, c'est pour faire votre terminale, mais vous intégrez ensuite l'École des Beaux-Arts de Nantes. C'était une évidence?
Toujours pareil. Moi, j'avais un petit peu peur parce que à l'époque, on disait être artiste, c'est pas vraiment bien gagner sa vie.
Oui, ça se dit encore.
Oui, ça se dit encore. Peut-être un peu moins. Et toujours pareil. Mon père me dit, mais de toute façon, tu feras toujours prof si jamais ça ne marche pas. Et parce que je voulais aller plus ou moins vers l'architecture. Il y avait ce désir-là ou vers les sciences. Et puis finalement, j'ai dit, mais non, j'ai envie de faire de la peinture. Donc, puisque tu m'autorises, j'y vais tout de suite. Et voilà.
Bah, faire de la peinture et vouloir faire de la peinture à ce moment-là, et en plus quand on rentre aux Beaux-Arts, c'est pas une époque qui considérait très très bien ce médium, mais vous, c'était une évidence là encore, la peinture.
Oui, c'est une évidence parce qu'on ne va pas contre soi de toute façon. Bien sûr, c'était les années 68 avaient laissé, on va dire, des marques assez fortes comme ça, et même les artistes que l'on revoit aujourd'hui, que j'apprécie énormément, qui sont Claudia Lai et d'autres, à l'époque n'avaient pas cette ouverture qu'ils ont eue beaucoup plus tard. C'était un peu raide, hein. Il fallait faire comme ça, il ne fallait pas faire de la peinture classique, il ne fallait pas travailler sur châssis, il ne fallait pas... Mais bon, bien sûr, nous, on allait sur le côté, puis on faisait ce qui nous plaisait.
Alors, ce qui vous plaît, si en Afrique vous peignez des paysages français, en France, dans ces années 80, votre peinture, Philippe Cognier, elle est très inspirée par l'Afrique, que vous aviez donc quitté peu de temps auparavant. Il y a sans doute aussi l'influence, alors Matisse, Picasso, les livres qui étaient aussi dans la bibliothèque de votre père, mais aussi les néo-expressionnistes allemands, mais aussi la trans-avant-garde italienne, mais aussi Basquiat, Haring, qui émergent dans ces années-là. Vous aussi, comme ces peintres de ces mouvements et ceux que j'ai cités, vous réintroduisez la figure primitive dans votre peinture à ce moment-là ?
La figure primitive, elle vient de l'Afrique aussi, elle vient de cette mémoire, enfin, je veux dire, à la fois peut-être aussi de la statuaire, peut-être de Picasso, bien sûr. On voyait le rapprochement qui se faisait là, je l'avais vécu moi personnellement. Et le bois, bien sûr, travailler le bois, travailler des matériaux qui étaient assez naturels comme ça. Et c'est vrai que j'avais une attirance pour ces artistes, on va dire, très expressionnistes, comme ça, qui s'exprimaient avec une certaine violence, avec une certaine puissance. Bon, Baslitz, évidemment, faisait partie de ces personnes, punk. Et très vite, j'ai eu envie d'avoir un travail qui soit assez puissant, mais qui, avec cette mémoire africaine qui était encore là, je veux dire, même si j'avais quitté l'Afrique depuis quelques années, à chaque fois que je faisais un travail, il y avait cette brutalité qui revenait, mais qui était à la fois... je dirais le fruit un petit peu de cette expérience de l'enfance, de l'adolescence. Et il faut savoir aussi que c'est toujours dans l'enfance, quand on grandit, qu'on emmagasine tout un tas de choses qu'on ne comprend pas. Et évidemment, juste quand on sort de l'école, on veut déverser tout ça, le jeter sur la table, et puis s'en débarrasser presque. Et là, j'étais dans ce moment-là.
On verra qu'il y a eu d'autres moments, y compris tout récemment. Mais quelques voix à vous faire écouter dans cette émission, Philippe Cognet, pour vous permettre de réagir alors en accord ou en désaccord. On verra avec quelques confrères, en commençant par Gérard Gazurowski, s'y interrogé sur France Culture en 1983.
La chose qui a profondément changé, c'était surtout le fait que, quand je parle par exemple de mes premiers tableaux, je dis bien de mes premiers tableaux, je ne mélange pas les tableaux d'images et puis après la peinture qui est intervenue. Même quand elle a pris sa première expression à travers les croûtes, qui était vraiment quelque chose d'abominable au niveau d'une forme peinte, mais à travers cette forme abominable, il y avait tout de même un mécanisme de peinture. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit, indépendamment de l'objet, que ce soit... un village, un coucher de soleil, un vieux portrait. C'était, j'avais l'impression, là, de me remettre vraiment dans une forme peinte, c'est-à-dire de peindre. Et c'est ça qui était vraiment le début de tout un travail qui a suivi et qui fait que, quelque part, je rejette, je nie même toute cette forme faite à travers un pinceau bien délié, et où l'image comme ça se construisait doucement, très réaliste, mais qui était pour moi quelque chose qui était fait quelque part sans plaisir. C'est vraiment à travers le mécanisme de la peinture proprement dite, quel que soit l'objet, que vraiment je me suis trouvé en contact de quelque chose qui m'appartenait, qui était le propre de ce qui allait suivre.
Gérard Gazurowski en 83, réaction Philippe Cognet à ses propos.
Moi, j'aime beaucoup Gérard Gazurowski pour toutes les recherches qu'il a faites, pour toutes ses aventures extrêmes, parfois. Et parce que c'est vrai qu'il aurait pu rester dans un travail très hyper réaliste, très précis, il savait très bien dessiner. Et puis, il est parti sur d'autres chemins parce qu'il pensait que ça, bon, être un artiste, c'est aussi tenter plein d'expériences différentes, c'est explorer, c'est pas savoir où on va, c'est être dans le doute. Et puis comme ça, on ne vieillit pas, quoi. On reste jeune, parce qu'on est toujours dans cette recherche, dans ce plaisir, dans ce désir. Et il parle aussi de désir, de la peinture. Bien sûr, c'est énorme, ce désir. C'est comme la cuisine, pour moi, c'est quelque chose d'assez proche. Si on ne ressent pas ça, le tableau, enfin l'œuvre, possédera quelque chose en moins. Et celui qui la lit, forcément, il ressent ça. Il ressent. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a rien. Il y a juste effectivement de la couleur, de la matière, de l'épaisseur, un geste particulier. Mais tout ça renvoie quelque chose de très particulier au spectateur qui va le recevoir directement.
Alors concernant le fait de peindre, il faut s'arrêter un instant sur votre technique ou votre méthode, Philippe Cognet, pour mieux comprendre le rôle que vous donnez à la peinture avec une méthode de travail que vous avez élaborée, qui s'origine alors dans une image photographiques, alors d'abord prises par vous, puis ensuite glanées sur Internet aussi, notamment avec Google Earth, on en reparlera sans doute. Mais une fois l'image choisie, comment est-ce que vous avez trouvé, choisi la méthode de travail que vous allez peut-être nous décrire? Une fois l'image choisie, qu'est-ce qui se passe?
Je pourrais expliquer. Oui, bon, on va parler de la technique. En gros, je choisis une image qui est le fruit, on va dire, d'une longue réflexion ou d'une. Enfin, je travaille par série souvent, et donc c'est pas par hasard. Et cette image-là va me servir, on va dire, de modèle ou de support pour un travail. Je prends un paysage. Alors, ça dépend du motif lui-même. Où je suis très précis, où je m'en sers juste comme d'une inspiration. Et mon travail est un travail fait à la cire d'abeille. La cire d'abeille est un liant, comme l'huile de lin en est un, comme l'acrylique, la résine acrylique en est un autre. Et je mélange les pigments. Bien sûr, ça se fait à chaud. Donc, je parlais de cuisine tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai des faitous qui chauffent toute la journée. Ça boue comme ça. Et dans les faitous, de chaque faitous, il y a 4 gamelles. Et dans chaque gamelle, il y a du blanc, du noir, du vert, enfin, 3 sortes de vert, 3 sortes de rouge. Enfin, et souvent, je me lève le matin, j'allume. Mais avant même de commencer, il faut quand même que ça chauffe doucement. Parce qu'autrement, ça abîme les couleurs. Et puis vers 9h, je me mets au travail, mais tout est prêt. Et là, je trempe mes pinceaux et je peins ou à plat ou à la verticale. Ça dépend de ce que je veux obtenir comme effet, ou si je veux être précis ou pas. Et une fois que le travail, que la surface est complètement recouverte de ce travail fait au pinceau, comme ça, j'appose un film, ce sont des films rhodoïdes assez grands, sur toute la surface, et je viens réchauffer, enfin avec un fer passé. Il y a le film qui empêche d'avoir un contact direct. Et sous la surface du film, la cire fond et se liquéfie assez rapidement, d'ailleurs, par la chaleur. Faut pas chauffer trop. Et évidemment, ça floue tout ça, disperse les frontières entre chaque couleur et ça crée une sorte d'image flottante, comme ça. Et ensuite, j'enlève le film et ça me donne une image qui est pour moi une sorte de révélation. C'est-à-dire que je ne sais jamais exactement ce que ça va donner. Si pendant tout le travail de montée du travail de peinture au pinceau, je savais à peu près où j'allais, une fois que je mets le film et que je repasse, là, il y a quelque chose ou de magique ou de catastrophique qui va se passer. C'est-à-dire où ça rend l'image beaucoup plus belle, où ça la détruit. Enfin, je vais trop loin et ça la détruit.
On va dire que ce sont des accidents qui sont importants dans ce processus, en tout cas l'aléatoire de la chimie ou de la chaleur, pour le dire un peu rapidement, mais... C'est là que la matière picturale, elle reprend le dessus sur l'image, de départ.
C'est-à-dire que, au départ, il y avait un geste qui m'intéressait. J'ai toujours été à la fois iconoclaste et à la fois dans la construction des images. J'aime bien détruire pour reconstruire. Enfin, il y a ce jeu-là que les enfants font, je sais pas, en faisant un château de sable, on donne un coup de pied dedans, mais pour en refaire un autre, ainsi de suite. Il y a ces sortes de jeux. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais... En faisant ce geste, j'efface le geste du peintre. Le geste du peintre, c'est le geste de Van Gogh, c'est le geste de Goya, c'est la touche picturale qui caractérise souvent les artistes. Mmh. Évidemment, avec ce geste d'effacement, j'allais à l'encontre de cela. Et donc, je trouvais très intéressant d'avoir un résultat qui soit l'envers du geste et qui soit presque neutre, pas neutre vraiment, mais... Et puis il y avait un deuxième geste qui naissait, parce que dans cette originalité-là, il y avait quelque chose que j'avais jamais vu et qui apparaissait. Donc on pouvait dire que c'était le nouveau geste du peintre.
Et ce qui donne pour le regardeur un effet extrêmement saisissant. Alors à ce moment-là aussi, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, s'ils ont pas loin un ordinateur, de regarder Philippe Cognet, Cogne, pour avoir les images et un peu même des reproductions sur la toile pour permettre de voir un peu. Mais c'est vrai que moi, je suis très très fasciné par votre travail depuis très longtemps. Mais pour continuer à l'explorer, ce travail, il faut dire que le sujet ou les sujets, Philippe Cognet, il faut dire qu'il y a eu un détour par la Villa Médicis qui a été fructueux, alors même que la résidence que vous avez effectuée quand vous étiez pensionnaire à Rome a été éprouvante. Mais c'est bien parce que vous avez, dites-vous, étouffé à Rome que vous êtes rendu compte que finalement, dans votre atelier, dans la banlieue de Nantes, vous étiez libre et qu'il y avait un monde autour de vous qu'il vous fallait regarder. Ça s'est vraiment passé comme cela?
Oui, il y avait plusieurs conséquences, mais ça, c'en est une, évidemment, parmi les autres. Et c'est vrai que la Villa Médicis, pour certaines personnes, c'était un rêve fabuleux. Et pour moi, moi qui rêvais un peu de Rome, j'avais vu les films de Fellini, de Pasolini, de tous ces personnages, ces cinéastes qui étaient pour moi fabuleux. Je me disais, bon, il y a quelque chose de formidable aussi à Rome. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que je me suis... Il faut dire que l'école, je n'ai jamais trop aimé ça. L'école
des Beaux-Arts. Jamais été votre truc.
L'école des Beaux-Arts,
j'ai pas... La primaire, n'en parlons pas. Le lycée, pas mieux.
C'est à peu près.
Et les Beaux-Arts, bon, à peine mieux.
Non, c'est pire.
Pire ? Pire que la primaire.
Oui, parce que j'ai passé 7 ans dans une école d'art.
Oui, c'est vrai.
7, parce que j'étais pas mûr, comme je dis.
C'est 5, normalement.
C'est 5, oui. Mais bon, il ne voulait pas me donner le diplôme à la fin.
Donc l'Académie française de Rome, c'était un peu trop strict ou rigide pour vous ?
Je me suis retrouvé un petit peu dans... Après, j'étais sorti en fin de l'école et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé naviguer tout seul, comme ça. Ça me convenait. Et d'un seul coup, je m'apercevais que je me retrouvais encore avec un mur, avec des obligations et différentes choses comme ça. Et même si je respectais évidemment cela, je me disais, mais là, c'est pas fait pour moi, ça. Et j'étais très embêté, alors... Puis ma femme avait un travail en France, c'était compliqué. Alors je dis, mais les enfants, c'est vrai que c'était scolarisé, enfin, ça devenait un peu fou. Et je me disais, mais comment je vais faire, comment je vais gérer cette année-là? Et en plus, je ne me sens pas vraiment bien ici. Et l'atelier dingue a beau être très beau, je ne sais pas quoi y faire parce que c'est comme un musée. Et moi, je ne peux pas travailler dans un musée. Et c'est là que j'ai compris que dans la banlieue de Nantes, entre une autoroute, enfin, c'était le périphérique, un supermarché, il y avait des champs avec des vaches. Il y avait tout, et des pancartes, parce que c'est vraiment l'entrée de la ville. Une ville, c'est sans intérêt aucun. Mais j'ai compris que là, dans ce lieu, qui ressemblait au XXe siècle dans lequel j'étais à l'époque, enfin, XXe siècle, c'était ça, fin du XXe siècle, c'était exactement comme ça qu'était le monde d'aujourd'hui. Et évidemment, quand il n'y a pas de charge, on va dire, autour de soi, on se sent libre. Et puis on se dit, ben, finalement, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas l'histoire qui me regarde. Avec un... Et j'ai compris que, peut-être parce que je voulais me détacher justement de cette mémoire africaine, qu'il fallait que je regarde le monde qui était autour de moi, tout ce qui m'entourait, tout ce que le regard croisait, et réintroduire tout ce que mon regard croisait dans le champ de l'art.
Alors, dans ces années 90, Philippe Cognet, alors ça va aussi commencer par des objets domestiques, il y a des machines à laver, il y a des congélateurs, puis un peu plus tard, le vivant revient dans votre peinture, notamment la série Albufeira sur votre famille, des photos prises en été, les vacances. Parce qu'il y a déjà, et ça va rester récurrent, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, le désir de renouveler votre catalogue d'observation. On va évoquer quelques séries, mais les séries, elles naissent par quoi ? Par crainte de la répétition ?
On peut dire cela, oui. On peut dire cela. Bon, les premières séries, ce sont des paysages. Quand je change, pourquoi le paysage ? Je crois que j'ai entendu de Baslitz, j'ai entendu de Dubuffet, je ne sais plus de quel artiste encore, peut-être de Malcolm Morley. Et quand à un moment donné, ils veulent changer leur travail, ils peignent des paysages et des vaches. Alors, pourquoi des vaches ? C'est peut-être parce que c'est placide et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je peignais des paysages et des vaches avec une peinture assez épaisse à l'huile et rugueuse, où j'attaquais le support avec des outils contendants, des pioches, tout ça. Ça explosait le bois, parce que je travaillais sur bois, et se mélangeait avec l'huile. Et j'avais un support très rugueux. Et je voulais travailler sur l'exact inverse, c'est pour ça que j'en suis arrivé à travailler à la cire et avec ces films. Je voulais avoir l'opposé, c'est-à-dire une peinture qui soit aussi lisse qu'une photographie. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé cette méthode d'approche. Et c'est vrai que j'ai commencé à peindre des paysages, puis je peignais des paysages, puis très vite j'ai dit, mais non, je ne vais pas peindre que des paysages. Et là j'ai dit, mais il faut peindre tout ce qu'il y a autour de toi. Et je me rappelle, c'était les mots de... Comment il s'appelle ? C'est un Italien de la Transavangarde, là. C'est pas Cookie, c'est... Non, c'est...
Alors, je ne sais pas de qui vous voulez parler. Je ne vais pas pouvoir vous aider tout de suite.
Ah mince, son nom m'échappe. Bon, ça va me revenir. J'ai une mémoire des noms, parfois.
Qui disait
comme ça que lui, il ne voulait plus se poser la question du sujet. Donc, chaque matin, quand il se levait, il dessinait directement.
Chaque matin en se levant, il ne faut pas se poser la question du sujet.
Voilà. Oui, lui, il voulait être dans une sorte de liberté totale comme ça. Et c'est ça qui a déclenché chez moi, c'est Clemente. Et c'est ça qui a déclenché chez moi ce désir de prendre mon appareil photo et de photographier tout ce que mon regard croisait. Donc ça a commencé par mes chaussures, ce qu'il y avait dans l'atelier, le frigo qui était dans un coin de l'atelier avec la machine à laver, et ainsi de suite. Et j'ai fait comme ça, puis après je suis sorti dehors, j'ai pris la voiture, puis j'étais au supermarché, j'ai été photographier les immeubles qui étaient autour de banlieue, et ainsi de suite. Et j'ai compris, bon après j'ai regardé ces photos, et je me suis dit, comme j'ai peint des paysages, je vais recouvrir les paysages de peinture à l'huile, la photographie elle-même, et tous les sujets de la même façon. Je verrai si les autres sujets peuvent devenir des tableaux en les agrandissant, comme des toutes petites esquisses. Et j'ai accumulé comme ça trois séries de 200 images à chaque fois peintes, et c'est de là quasiment que tout est né ensuite. Sur les 20 ans qui ont suivi, toutes les idées sont parties de ce projet-là.
Alors, à partir de ce projet-là, bon, il y a effectivement tout ce que vous voyez autour de vous. Et puis, il y a les foules, un peu plus tard, et on en retrouve aujourd'hui à l'Orangerie, on en reparlera. Il y a les villes, New York, Le Caire, les décharges, les vanités, les autoportraits, qui eux aussi subissent donc ce traitement, on va dire.
Violent, souvent.
Violent. Cette question du portrait, je propose d'écouter un court archive de Francis Bacon au micro de Georges Charbonnier en 1975.
Well, as you know, painting is an impossible. It's an art. It's a visual art that's really almost impossible to talk about.
And when I parler de peinture, eh bien, c'est impossible. Et paradoxalement, on en parle, on prend même plaisir à en parler. En parler, ce serait évidemment bien plus facile avec l'aide de l'alcool, comme la dernière fois que je vous ai vu.
Head and the face, or portraiture. How are you today?
Peindre, eh bien, c'est refaire les apparences, recréer les apparences. Et comment parler des apparences?
Has now gone, has become so far so very perfect.
Refaire les apparences, celle de la figure humaine, celle d'un portrait. On peut évidemment commencer par la tête, par le torse, par les membres, peu importe. Ce dont il est question, c'est comment faire un portrait sans en faire une description, sans faire une illustration du sujet. Et étant donné la perfection qu'a atteint de nos jours la photographie, refaire l'apparence sans l'illustrer. Il faut donc s'éloigner des apparences littérales, puis revenir aux apparences que l'on choisit, les apparences que l'on veut enregistrer.
Francis Bacon, en pleine forme.
C'est formidable.
Philippe Cognet, oui, ça fait toujours un bonheur de l'entendre. Oui. Faire un portrait, c'est évidemment pas illustrer la personne que l'on a devant soi.
C'est très compliqué le portrait, je l'avoue. C'est très compliqué. La preuve, c'est que j'ai fait des portraits, j'ai fait ma famille. Bon, ça c'était par rapport à une sorte de petite blague comme ça, parce qu'on me proposait une petite exposition au musée de Nantes et j'avais dit je vais faire rentrer ma famille au musée de Nantes. Donc j'avais utilisé les photos de vacances et j'avais fait des tableaux. Des portraits de mes enfants et de ma femme et de moi-même. Non, mais après, j'ai essayé de faire quelques portraits comme ça et je trouve que c'est extrêmement difficile et peut-être qu'un jour j'y arriverai, je comprendrai mieux. Entre-temps, j'avoue que j'étais formé parfois tellement les gens qu'ils n'étaient pas toujours contents. Et à la fin, finalement, je me suis peint parce que moi, je ne pouvais pas
râler. Vous ne pas vous plaindre à
voilà,
de vous-même.
Moi, ça m'est égal. De toute façon, on sait comment on termine. Donc, quelque part, je trouve que le portrait, c'est justement cette possibilité d'aller le plus loin possible pour garder l'image résiduelle, quelque part. C'est peut-être ça.
Mais c'est aussi pour ça que je vous fais écouter des voix d'artistes. Il y en a encore un qu'on découvrira tout à l'heure aussi. C'est pour évoquer cette œuvre importante et assez à part, le catalogue de Bâle que vous avez réalisé entre 2013 et 2015, autour de laquelle s'articule pour partie votre exposition au musée Bourdelle. Alors pour le dire simplement, là encore, vous avez pris des centaines de pages issues des catalogues d'Art Basel, donc grande foire d'art, et vous avez peint sur cette reproduction, vous avez repeint l'œuvre. C'est-à-dire que la reproduction photographique est peinte, la photo disparaît, une nouvelle image apparaît. Bon, j'essaie de le résumer au mieux, mais c'est de la disparition-apparition, là.
Ouais, c'est un geste. Bon, bien sûr, l'idée est partie de toutes les photographies que j'avais peintes dans les années 95. et je voulais refaire quelque chose, pas identique, mais je m'étais dit, je sais pas, j'allais à la foire de Bâle tous les ans depuis une vingtaine d'années, parce que ma galerie suisse à Lispoli, puis après à Ptamplon, présentait des œuvres. Et donc j'ai été présenté plus de 20 fois, ce qui est, j'en suis fier d'ailleurs.
Vous avez raison.
Quand même, c'est une foire, la plus grosse foire du monde. Et à chaque fois, j'étais fasciné par ce bouillonnement, enfin cette foire énorme, ces collectionneurs qui courent dans tous les sens. Enfin bref, c'est un monde un peu particulier. Et le catalogue, à chaque fois, ils sortaient un catalogue. Et c'était comme une sorte de bible, comme ça, les gens le ramenaient chez eux, la mettaient dans la bibliothèque, disaient, oui, j'étais à la foire, il y a telle galerie, c'est ça. Alors, je trouvais ça assez fascinant. Moi-même, j'achetais quelques catalogues des foires. Et puis un jour, je me suis dit, mais cette foire, bon, je sais pas pourquoi, il faudrait ce catalogue. Je vais déchirer les pages et je vais recouvrir les pages. Une sorte d'idée comme ça folle. Un petit peu comme pour avoir ce geste iconoclaste, déchirer la Bible quelque part. Et puis après, de ces images, je les collais sur un support dur en aluminium. Pourquoi ? Parce que autrement, si on veut recouvrir de peinture à l'huile, ça finit par s'abîmer. Préparer. Et ensuite, j'ai recouvert à l'identique tous les signes qui étaient dessous. Donc si c'était une photographie de Cindy Sherman, je repeignais une photographie de Cindy Sherman qui devenait une peinture de Cindy Sherman. Une installation de Pascal Martin Taillou devient une peinture de l'installation de Pascal Martin Taillou. Un dessin de Kondo devient une peinture du dessin de Kondo. Et une peinture de Philippe Cognet, que j'ai trouvé plusieurs fois, redevient une peinture et ainsi de suite. Et tout ça devient complètement... Et puis, je travaille à plat comme les moines copistes. Et ensuite, l'image est redressée, comme les icônes de l'époque, et elle fait face au spectateur. Donc il y a ce geste presque de copiste, moine. Et puis, on y retrouve évidemment, ça c'est le plaisir, parce que j'ai travaillé sur 10 catalogues entre 2003 et 2013, où le catalogue disparaît ensuite. Donc j'ai fait à peu près 1080 images. Et ce qui m'amusait, c'est qu'on y retrouvait les icônes comme, bien sûr, Bacon, qu'on a entendu, Picasso et tout ça, et Jeff Koons et compagnie, et des inconnus aussi. Et je trouvais très amusant de mettre tout ça au même niveau, puisque c'était repeint, et d'en faire quelque chose d'absurde aussi, mais qui aussi renvoie finalement à l'idée du supermarché de l'art, à cette idée de consommation, à cette idée-là, par le nombre bien sûr, et par l'alignement, à quelque chose qui nous dépasse et qui a, comment dire, on peut le voir de 10 000 façons aujourd'hui, ce projet.
Au musée Bourdal, c'est une frise qui tourne dans les différents espaces, cette façon de présenter. Et a été choisi de quelle façon ?
Je l'avais présenté de deux façons différentes avant. C'était plutôt comme des rayonnages. Je voulais renvoyer à l'idée du supermarché et d'accumulation. Et ça marchait que moyennement parce qu'on ne se rendait pas compte du nombre. Et Colin Lemoine, avec le commissaire de l'exposition, qui a fait un très très beau travail, vraiment formidable, a eu l'idée, on en a parlé très vite, de créer une forme plutôt labyrinthique. En mettant effectivement à hauteur des yeux, de chaque côté, c'est un alignement de ces images qui sont quasiment à tous touches. Et il y a quand même 120 mètres, 120 mètres ou 100 linéaires. Ouais. Et c'est très beau. Et comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que ça introduit la notion du temps, la circulation, le fait de se perdre dans les dédales. Nous montre que c'est un projet un peu fou parce qu'il faut qu'il y ait une démesure dans des projets comme cela.
Et comment est-ce que vous avez choisi les autres œuvres qui sont présentées dans l'exposition ? Parce qu'on va trouver, alors, période plus récente, les fleurs, mais les magasins, les portraits, et puis les sculptures, on est quand même au musée Bourdel, donc c'est important. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ?
Oh, c'est beaucoup aussi, dans une exposition comme celle-ci, c'est beaucoup un choix entre le commissaire et l'artiste. Une discussion. Colin Lemoine a pensé qu'il était intéressant d'y présenter un supermarché, car les réserves de Bourdel sont des accumulations énormes de sculptures, de têtes, de bustes, de tout ce que l'on veut. Et évidemment, ça renvoyait à mes supermarchés. Puis après, l'accumulation de mes images renvoyait à l'idée du nombre. Et l'histoire du nombre, chez moi, a toujours été très importante. Après, les sculptures en rouge, en terre, cuite, qui est un geste primal, comme ça, le premier geste que fait la main de l'homme quand il prend de la boue, tout simplement, en creusant deux yeux presque et une bouche, et en posant ça. C'est un travail très, très primitif et je trouvais que c'était intéressant de le confronter à Bourdel. Et puis les sculptures qu'on voit à l'entrée, pareil, Colin m'a dit que ce serait intéressant de mettre des sculptures. Et moi, j'étais très content de les présenter parce qu'elles ont
pas été montrées. Très peu, oui.
Très peu, oui. Mais c'est un travail que j'ai fait dans les années 90 et qui a, pour moi, toujours beaucoup de force, beaucoup de qualité. Et je l'ai présenté quand même plusieurs fois ces dernières années dans des expositions avec Philippe Piguet. C'était à Thonon-les-Bains, c'était à l'espace Ribérol. Donc, elles apparaissent quand même de temps en temps, ces pièces-là.
Alors, j'évoquais les fleurs. Vous avez dit en 2017, dans une interview, Philippe Cognier, que vous étiez entré dans un troisième temps de votre carrière. Alors, si ça commençait avec les champs et les vaches, là, vous regardez à nouveau le végétal, les fleurs, les forêts, les champs. Alors, souvent aussi ces forêts et ces champs vus à travers le train entre Paris et Nantes, que vous avez souvent pris en tant que professeur aux Beaux-Arts de Paris, ce que vous avez longuement été. Et puis, les confinements vous ont aussi ramené vers les objets, chaises en plastique, vos gants aussi,
oui,
qui vous servent aussi bien au jardinage qu'à attraper, je pense, vos cires chaudes, le pot à pinceau. Enfin, vous en êtes où de cette troisième étape?
C'est un ami éditeur, philosophe, Jamel Mescache, qui me parlait de trois temps dans le temps de carrière, qui est celui de la découverte, celui où on installe les choses, et celui, à un moment donné, où comme on a tout fait ces choses-là, on peut enfin se débarrasser et se dire, bon, ben maintenant, je me sens beaucoup plus libre, on sait que le temps est plus court, donc on va à l'essentiel. Et on voit évidemment ce temps-là chez les artistes comme Picasso, comme Matisse, comme Dubuffet, on voit bien qu'ils se débarrassent, qu'ils ne s'encombrent plus de ce qui était un peu inutile. Mmh. Évidemment, c'est le rêve peut-être de l'artiste, c'est de dire, bon, allez, maintenant ça va, il y a des choses qui sont un peu flatteuses, on va les enlever, on va garder juste le principal et puis aller à fond là-dedans, parce que c'est vrai que, objectivement, le temps se raccourcit, donc il faut quand même réussir sa sortie un petit peu. Et c'est dans ce sens-là où je me dis, effectivement, que ce troisième temps, maintenant, il est arrivé et qu'il faut peut-être aller plus vers l'essentiel, plus vers ce qui, au fond, peut-être tout m'a toujours touché. Bien sûr, j'ai toujours fait avec conviction et engagement, mais peut-être me débarrasser des choses qui peut-être sont pas toujours utiles.
Avant de se quitter en musique pour cet entretien avec votre choix musical, qui n'a pas manqué de me surprendre et de me réjouir, mais vous allez nous en parler, quand même évoquer très rapidement, pardon, votre contrepoint contemporain au musée de l'Orangerie. Alors, de fait, je vous en disais deux mots avant le début de cette émission, Philippe Cognier, j'avais jamais pensé à ce côté famille entre vous et Monet, et ça me semble maintenant être une évidence, mais quand même, être invité à l'Orangerie, être confronté au Nymphéa, c'est pas rien. Comment est-ce que vous avez répondu à cela?
Bah d'abord, j'étais très content.
Je comprends.
Monet est un des peintres que je vénère le plus. Bon, il y en a beaucoup, mais lui, il fait partie de ceux-là. Et les Nymphéa, encore plus, parce que c'est un aboutissement. Je parlais de Picasso, mais là, c'est un aboutissement tellement délirant. Et puis, c'est une peinture qui, pour moi, que je n'arrive toujours pas à comprendre, parce qu'à chaque fois, elle me fascine différemment. La lumière est toujours changeante. On est toujours baigné dans un espace où c'est à la fois très japonisant, mais c'est à la fois très... Enfin, c'est juste une merveille, quoi. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de travailler dans ce musée, qui est en plus très très beau, bon, c'était chouette. Mais Dieu merci, le temps entre le moment, c'est comme le musée Bourdel, le temps où j'ai eu la proposition et le temps où le projet s'est réalisé, peut-être à cause du Covid, de différentes choses, a duré longtemps. Mmh. Et ce temps, je m'aperçois, est parfois nécessaire pour éviter les erreurs, pour éviter l'urgence comme ça. Et bien que certains tableaux, je les ai faits au dernier moment.
Quand même.
Ah oui, oui.
Mais au dernier moment de ce long temps.
De ce longtemps, ce qui est très différent.
Ce qui n'est pas la même chose. Donc, on peut, concernant l'Orangerie, découvrir ce contrepoint contemporain jusqu'au 4 septembre. Et le musée Bourdel, cette exposition, Philippe Cognier, la peinture d'après, c'est un jeu là aussi, c'est jusqu'au 16 juillet. Il faut signer qu'il y a un catalogue qui a été édité pour l'occasion par le musée Bourdel et Paris Musée. Et ajouter...
Il y aura une exposition au Mans, au musée des Beaux-Arts du Mans, à partir du 12 mai.
Ah, voilà une bonne nouvelle.
Oui, oui, une grosse exposition.
Plus rétrospective, celle-ci?
Plus rétrospective.
Bon,
sur la nature, la figure et l'architecture.
Et donc, comme promis, on va se quitter avec votre choix musical. C'est un groupe de rap Angelino qui s'appelle Clipping. Vous avez choisi un morceau qui s'appelle Say the Name. Pourquoi ce choix, Philippe Cogné ?
J'aime bien leur musique parce que c'est une musique contemporaine. Parce que quand je travaille, que je suis un petit peu mou comme ça, ou elle me réveille. Et puis je trouve que là, oui, c'est vraiment une très bonne musique. Je veux dire au niveau de son rythme, de ses instruments, de tout.
De sa progression aussi.
Sa progression, oui, c'est vraiment, c'est un groupe. Bon, bien sûr, c'est pas toujours facile à écouter, mais ça me plaît beaucoup. Et c'est vraiment comme le monde, c'est comme le monde dans lequel on est. Et ça me plaît.
On va écouter Clipping. Merci à vous, Philippe Cogné, d'avoir été notre invité ce soir. Et bon anniversaire.
Merci. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned.
The hook gon' be what it is, the hands off. The retribution for what you took from the man. Got blood on the rust, God bless the red. Earth, the dead man, walks the tongue bridge. A bridge, the time space, the boot, the concrete. The project undone, they juke it. Major look, you can't see it. The mob built the walls, the streets bleed sweet syrup, the bees love it. They coming on a swarm and they raining on your college ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch womb ready, cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Mammary glands heavy in the sky, blacked out already. Stop screaming. The flames ain't shit to a demon. Say the name.
Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned.
The hook gon' be the last thing she remember. The fast lane in December, off in drift when she drive. College girl looking for the love, learned about it in a book, but she always kept the gloves on. So when the skin touch, shit, head rush. Red brush, lipstick, she just crush a lot. Every pun pales a comparison, a joke to a jester, she inundated with dick. Thick, and becoming conservative in her fucking and nervous that she would rush him, but murder wasn't discussing. The further she learned to trust him, the merger of love and lust, and she's serving it all up just cause he hold her when he would bust. Until 9 months later, with a stomach full of devil, baby, she started to think it's time to pump the brakes. But that train left the station with the great migration, bloody tracks left right by the drain. Say the name.
Candlesticks in the dark.